La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y aura bientôt 2 ans. Le 22 avril 2017 était organisé dans de nombreuses villes du monde des marches pour les sciences. Cette mobilisation unique avait été imaginée en réaction à l'élection et à la prise de fonction quelques mois plus tôt du président des États-Unis Donald Trump, dont l'administration avait immédiatement gelé d'importants crédits scientifiques. Et au-delà de la critique de ces politiques publiques, c'est plus largement la montée en puissance de ce que certains appellent la post-vérité qui se trouvait visée par ces manifestations. Cela faisait longtemps que des scientifiques s'étaient ainsi massivement et publiquement fait entendre en défense de la science, et pourtant le fait de militer pour la science, notamment de la part de scientifiques, mais pas seulement, a une assez longue histoire, même si elle n'a jamais impliqué un nombre considérable de personnes. Et c'est précisément cette histoire, en tout cas celle des militants pour la science en France au XXe siècle, qu'écrit Sylvain Laurence dans un livre important sur les mouvements rationalistes. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Et c'est un scientifique biologiste qui nous rejoindra pour la deuxième partie de l'émission, Thomas Eames, qui est aussi un écrivain, mais là qui vient avec sa casquette de scientifique et la parution d'un livre, Infravie, aux éditions du Seuil. Thomas Eames, qui est maître de conférences à AgroParisTech. Mais c'est avec vous qu'on commence, Sylvain Laurence, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales et vous publiez aux éditions de cette même école Militer pour la science, les mouvements rationalistes en France, 1930-2005, je disais 20e siècle pour faire simple dans l'introduction, mais c'est vrai que c'est une assez longue période que vous avez couverte, une période mal connue qui concerne, je le disais, finalement assez peu de gens. Le nombre des militants est limité, mais ce sont des militants importants parce que rapporté au nombre de scientifiques, par exemple dans les années 30, c'est beaucoup de gens. Au moment où se crée, peut-être peut-on commencer par là, la première association, cette association est capable en très peu de temps de réunir une grande partie de ce que compte le monde académique scientifique.
Oui, alors aujourd'hui c'est que ça peut nous sembler des combats un peu désuets ou dépassés, mais dans les années 30, en vérité, être un savant, c'est aussi avoir, c'est conduire des expériences, travailler au jour le jour dans son laboratoire, mais c'est aussi avoir un engagement public pour la science. Et donc, j'étais assez surpris de voir ça, parce que c'est vrai que notre génération de chercheurs est peu habituée à connaître les noms des gens qu'on croit dans cet ouvrage-là, mais en vérité, le livre porte sur ce qui est aussi un peu la pointe avancée de la science française, en vérité. C'est-à-dire que les gens qui ont créé, par exemple, l'Union rationaliste sont des gens comme Paul Langevin, qui à l'époque est le physicien français mondialement connu, à peu près au même niveau qu'un Einstein. C'est des gens comme Louis Lapicque, en fait, c'est une bonne partie du groupe de l'Arc Ouest, hein, qui est assez connu. Mais donc, ce sont ces gens-là, en fait, qui sont aussi, alors qui ont un pied dans la science pleinement, dans le sens où ils font progresser leur discipline, mais ils ont aussi un pied dans l'espace public en essayant de diffuser l'idée que la science peut être utile aussi plus largement. Et donc le livre porte un peu sur ce qui peut sembler comme un paradoxe aujourd'hui, c'est-à-dire en fait les meilleurs savants à l'époque sont aussi les savants qui sont peut-être les plus engagés politiquement et ils militent pour la science. Et alors ça aussi c'est quelque chose un peu de particulier, c'est-à-dire que après on va dire 40 ans de guerre froide, on a l'impression que la science est l'espace de la neutralité, surtout pas mélangé avec la politique, etc. Or pour eux, la science c'est la prolongation d'un engagement citoyen la science par exemple peut résoudre les problèmes qui se posent aux hommes et aux femmes de la société française, ça peut résoudre les problèmes de famine, ça peut aider à chauffer un pays, ça peut, voilà, donc c'est tout ça qui est derrière le livre. C'est, en fait c'est un peu une découverte, une redécouverte du fait qu'il y a eu en France des savants très engagés.
Alors ce qui est important à bien comprendre, c'est que cette Union rationaliste, par exemple, qui naît dans les années 30, elle est très différente de ce qui existe par ailleurs depuis fort longtemps, à savoir des sociétés savantes. C'est pas le même objectif. Les sociétés savantes regroupent des chercheurs par discipline, sont des lieux de débat, de controverses, de construction de ces disciplines. Là, il s'agit d'une seule et même association qui regroupe différents types de scientifiques. D'ailleurs, il y a aussi des représentants des sciences sociales au début, pas des moindres. On y croise un certain nombre de représentants de l'école durkheimienne en particulier. Mais elle regroupe ces savants avec pour objectif non pas simplement de parler entre eux, mais plutôt de s'adresser à un public extérieur, de faire la promotion, au fond, de la science. Et ça traduit un esprit qu'on pourrait dire venu des Lumières, un esprit encyclopédique, au fond. D'abord, une curiosité pour d'autres disciplines que la sienne. Et par ailleurs, ce que vous pointiez, Sylvain Laurent, c'est-à-dire le fait de penser véritablement qu'on peut s'appuyer sur la science pour poser des questions politiques, pour poser des questions philosophiques et même tenter de les résoudre.
Oui, et donc il y a cette idée que la science, ça ne s'arrête pas aux portes des laboratoires, qu'il faut la porter dans l'espace public, avec cette idée que ça va être aussi un bienfait pour la sphère politique, et que notamment, par exemple, la progression des idées conservatrices, adossées à la religion catholique, par exemple, vont pouvoir se trouver à se confronter à l'esprit scientifique dans l'espace public. On peut transposer dans l'espace public des bons réflexes de savants et des façons de percevoir les problèmes qui sont issus de la méthode scientifique. Mais ce qui est aussi particulier et qui est très différent, par exemple, de ce qu'on peut voir aujourd'hui, je trouve que c'est cette vision rationaliste, s'adresse aussi aux savants eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, elle pose la question en permanence aux savants de la responsabilité qu'il a en tant que savant par rapport à ses découvertes. Vers où doit tendre l'effort de recherche, vers où on doit mettre la priorité par rapport à la société. Et donc, voilà, ces gens se disent rationalistes, mais c'est pas simplement pour, on va dire, faire une espèce d'autorité du savant contre les citoyens. C'est aussi de dire, nous, en tant que savants, on a des responsabilités. Les découvertes qu'on a ont des conséquences. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est dans les années 30, donc on est aussi après la Première Guerre mondiale, un moment où la science a essuyé beaucoup de critiques. Beaucoup de gens disent que finalement, la science, elle a servi à façonner des armes, elle n'a pas été au service des citoyens. Et donc, il y a aussi cette idée que le savant est responsable de ses propres découvertes et qu'il doit en permanence articuler sa recherche avec ce qui se passe du côté de l'opinion publique.
On est après la Première Guerre mondiale, mais on est avant la Seconde et se prépare aussi dans des laboratoires d'autres armes encore plus terribles et qui impliquent des physiciens qui commencent déjà à réfléchir, comme vous le disiez, aux questions des conséquences de ces inventions. Mais je voulais rebondir sur une chose qui me semble importante dans votre recherche, dans votre livre aussi, c'est le fait que ce courant se constitue en réaction à la présence forte dans l'espace politique des conservateurs et en particulier du catholicisme. Et donc l'union rationaliste est quand même très liée à des formes d'anticléricalisme, même si les frontières ne se recoupent pas exactement. Il y a des liens avec la libre-pensée, il y a des liens avec la franc-maçonnerie qui sont extrêmement importants pour comprendre les réseaux qui se mettent en place pour créer ces associations.
Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est un peu une de raison, c'est-à-dire que les premiers fondateurs de l'Union rationaliste n'ont pas du tout les mêmes engagements par ailleurs politiques. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent être philo-soviétiques, par exemple, voir d'un bon œil ce qui se passe en URSS. C'est des gens qui sont plutôt socialistes, des gens qui sont plutôt des libertaires, des militants plutôt anarchistes, proches de Pivert ou d'autres figures aussi de la SFIO. Et donc là, l'idée, c'est que c'est des militants qui vont utiliser la raison comme un ciment, comme un plus petit commun dénominateur à opposer à ce qu'il présente comme étant la remontée d'une forme de conservatisme. En fait, bon, 1905 n'a pas arrêté l'histoire du combat pour la laïcité une fois pour toutes. Et donc, dans les années 30, il y a tout ce que Gisèle Sapiro a pu décrire dans ses livres, c'est-à-dire un renouveau nationaliste dans la littérature, une réaffirmation très forte d'un catholicisme offensif, etc. Et donc, en réaction à cela, les savants non religieux, mais ou qui peuvent être aussi issus de minorités protestantes ou juives, les socialistes libertaires se ressoudent, et donc il y a une forme de front populaire avant la lettre, en fait, dans le champ intellectuel, en fait. C'est ça qui est assez intéressant à voir.
Une union de la gauche, en tous les cas de cette gauche scientifique, voilà. On va dire, autour de ces questions. Alors, vous disiez, il y a la Première Guerre mondiale, il y a cette situation du conservatisme, mais il y a aussi l'affaire Dreyfus, qui va jouer un rôle important, parce qu'un certain nombre des protagonistes y ont été engagés, ou en tous les cas hérités de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle.
Oui, alors il y a eu ce petit moment-là qui est important pour eux, parce que c'est un ciment entre un groupe, notamment voilà, de gens qui ont fondé l'Union rationaliste. Après, ce qu'il y a, c'est que dans les années 30, cet attelage-là, il va être vraiment mis à rude épreuve, parce que ce qui va arriver, c'est effectivement après la montée des divisions du Congrès de Tours, le fait qu'il faut se positionner par rapport à l'URSS, Munich, bon, tout ça, ça va quand même fragiliser cette expérience-là. Et là, encore une fois, ce qui est utilisé, c'est la référence à la raison est utilisée comme un moyen de dépasser des divisions qui viennent du champ politique.
Alors du coup, c'est un endroit très intéressant pour observer de façon plus générale, ce qui se passe à gauche, parce que cohabitent des gens qui, sinon, seraient ou sont dans des organisations concurrentes de la gauche, mais qui, là, ont décidé, pour une bonne cause, la raison, la science, de travailler ensemble. Alors, vous voyez d'ailleurs des gens qui sont dans une situation compliquée au Parti communiste. L'Union rationaliste faire son voyage à Moscou, voyage en URSS, d'une certaine façon, ça va être un lieu aussi, ce sera le cas plus tard avec l'affaire Lysenko, de progressive prise de distance à l'égard du communisme politique le plus étroit.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit très bien à l'Union rationaliste, ce sont ces militants qui, par philo-soviétisme et par engagement politique, finalement, ont une sympathie pour l'URSS, mais en même temps ont été formés initialement dans un socle qui est celui de la philosophie classique, philosophie des Lumières, l'humanisme, qui ont été biberonnés aux livres des éditions sociales et qui donc ont un background qui ne se limite pas uniquement à une vision issue du PCUS, du Parti communiste soviétique. Et donc, en permanence, il va y avoir cette difficulté pour eux d'aménager une forme de sympathie qu'ils ont pour les soviétiques et en même temps la réalité de ce qu'est la science soviétique, avec après-guerre l'affaire Lysenko. Et donc l'Union rationaliste, ça va rester toujours ce pont, y compris pendant la guerre froide, entre des franges plutôt proches de la franc-maçonnerie, du Parti socialiste, enfin de la SFIO, et des gens qui sont pleinement engagés dans le PCF, dans le Parti communiste français, et qui vont devoir composer avec les impératifs de la science prolétarienne, Aragon et tous ces matons intellectuels. Donc il y a toujours cette idée que le petit groupe va subsister, ce petit groupe de rationalistes, mais le sens finalement de cette alliance va complètement changer après, pendant la guerre froide. C'est-à-dire l'Union rationaliste va toujours rester cette espèce de groupe soudé, mais l'ennemi, ça va plus être de se souder face aux intellectuels nationalistes, conservateurs ou même face au fascisme. À partir des années 50, ces savants vont utiliser le rationalisme comme un moyen d'aménager des espaces à l'intérieur de l'enserrement stalinien des savants par le Parti communiste.
Avant de revenir à ces années de guerre froide, puis aussi peut-être de dire un mot de ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, je voudrais qu'on revienne au début, dans ces années 30, pour essayer de mieux caractériser qui sont les adhérents de ce groupe. Parce que on a dit qu'une partie des choses. On a dit, au fond, qu'on y trouvait parmi les plus grands savants qui travaillent en France à l'époque et qui s'impliquent. Mais on y trouve aussi, et c'est très important, des instituteurs et des organisations d'instituteurs. C'est-à-dire que, au fond, sont mobilisés là autour de cette cause pour la science, des gens qui ne sont pas des universitaires, des chercheurs, mais des gens qui sont extrêmement attachés à la raison de la même manière et qui vont être des relais de cette association qui a des antennes locales d'ailleurs, Sylvain Laurence.
Voilà, et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est au nom de ce combat pour la science, vont se faire des passerelles entre les mondes de la recherche, de l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire, y compris des instituteurs, et puis aussi tout ce qui se passe du côté des écoles populaires, de l'éducation populaire. Et donc là, il y a vraiment un maillage qui est en partie toujours là aujourd'hui, mais qui a aussi été fragilisé, qui est important et qui permet de dire que la médiation scientifique a été aussi un liant entre des univers sociaux, finalement, qui seraient sinon dispersés. Et donc, il y a cette idée d'un lieu de convergence entre différentes fractions de la gauche et aussi cette idée d'un pont entre différentes façons de transmettre des savoirs.
Et différents, je dirais, niveaux dans la structure sociale aussi, parce que c'est pas, à la différence des sociétés savantes, un lieu qui ne réunit que ce tout petit monde à l'époque de la recherche, en fait.
Voilà, y compris, ils organisent leurs balles populaires, ils ont des conférences assez ouvertes. Enfin, il y a cette idée que c'est pas forcément quelque chose de sinistre, la science aussi, qu'on peut diffuser l'esprit scientifique à travers des sociabilités qui sont pas que des sociabilités ultra-élitistes. Alors après, avec ce bémol, qui est que mon livre est un peu... Enfin, moi, j'essaie de défricher ça, mais je pense que ce serait très fort d'avoir aussi une approche par le local et montrer comment ça se passe dans ces groupes locaux. Le livre est porté essentiellement sous des archives parisiennes, mais on voit déjà effectivement des choses du type, voilà, des balles populaires, des balles annuelles, l'idée qu'on fait des conférences. On va aussi essayer d'avoir des interventions dans la presse lues par les classes populaires, pas que dans les revues savantes. Et donc, il y a vraiment cette idée que transmettre l'esprit scientifique, ça suppose une mobilisation des savants au-delà de leur seul travail en laboratoire.
Alors, ça, c'est les années 30. Dans ces années 30, à la fin des années 30, l'Union rationaliste va être l'un des premiers lieux où on perçoit le plus clairement, le plus lucidement, ce qui est en train de se passer en Allemagne, par exemple. Et du coup, un certain nombre de ces militants pour la science se retrouvent engagés très rapidement dans la lutte contre le fascisme, contre le nazisme. Ce qui va, évidemment, mettre l'association dans une situation difficile pendant toutes ces années.
Alors effectivement, on a oublié peut-être de mentionner ce fait, mais l'association a d'emblée l'idée de dépasser le cadre national, puisque effectivement, ils s'opposent aux nationalistes. Et donc leur président d'honneur est Albert Einstein, il y a aussi Russell, et donc il y a toujours cette idée que la science française entre en communion avec la science internationale et qu'il n'y a pas à avoir des clivages nationaux. Ce qui fait qu'en fait, du fait de ces liens, effectivement, dès la montée du nazisme, dès les attaques des nazis contre les universitaires, dès qu'on commence à brûler des livres, etc., l'association est très bien positionnée pour percevoir ces évolutions-là et voir que la montée du nazisme se fait en premier lieu aussi contre les mondes intellectuels. Et donc, c'est quelque chose qui fait qu'ils vont être tous engagés dans les manifestations antifascistes en Allemagne. Ils vont être aussi, bien sûr, partie prenante du comité de vigilance des intellectuels antifascistes en France. Et donc, il y a vraiment cette idée que, pour eux, militer pour la science, c'est d'emblée être aussi dans un engagement antifasciste.
L'association renaît en quelque sorte à la libération. Elle a tout à reconstruire en quelque sorte, et elle a tout à reconstruire dans un paysage scientifique qui va changer très vite. C'est-à-dire que de ce point de vue, il y a un contraste saisissant entre ce qu'est l'administration de la science dans les années 30 et ce qu'elle va devenir dans ces années de la reconstruction, dans les années 50, 60. Et du coup, les questions se posent plus tout à fait de la même manière pour une association comme l'Union rationaliste.
Alors, ce qui est effectivement derrière le même nom d'organisation, on va avoir une restructuration de cet engagement rationaliste.
Une continuité de certaines personnes, quand même.
Avec une filiation, une continuité de certaines personnes qui font le lien. Hein, Paul Langevin, qui meurt quelques années après la libération, mais qui est là au tout début de la relance, qui raconte comment les documents de l'Union rationaliste ont été saisis par les nazis, qui raconte comment il a pu gérer la période de l'occupation. Mais derrière, au moment de la relance, on voit bien qu'il y a des forces sociales qui vont repousser et qui vont revivifier cette structure-là. Finalement, ça renaît un peu de ses cendres. Et notamment parce qu'il y a des filiations aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens dont les parents étaient membres de l'Union rationaliste qui vont s'y investir. Tout un tas de savants qui ont subi eux-mêmes la persécution nazie, qui ont rencontré des communistes pendant la guerre. Et donc, petit à petit, ces acteurs-là ne vont pas laisser l'association péricliter. Ils vont essayer de la relancer. Et donc, il y a deux types de forces sociales qui poussent pour restructurer le mouvement rationaliste, cette organisation après-guerre. Il y a d'un côté donc les savants communistes, hein, et donc effectivement le PCF va tenter d'en faire une organisation satellite parmi d'autres, hein, donc ils vont fortement l'investir. Et puis les héritiers de ce groupe de résistants, des gens du Musée de l'Homme bien sûr, qui sont des gens qui ont toujours gardé des liens avec le groupe des Langevin, des Joliot, etc., et qui vont apporter le soutien de l'administration de la recherche, hein. Donc les rectorats, le CNRS qui va donner une subvention régulière à l'association. On voit bien que d'ailleurs, ce qui va se recomposer, c'est aussi l'idée que la science a un rôle à jouer dans la France d'après-guerre et que donc ce type d'organisation ne doit pas être laissé sur le bord du chemin. Et donc on n'est pas tout à fait dans le même type de dynamique, de logique. Finalement, les savants des années 30 ont réussi leur pari. Ils ont réussi à institutionnaliser la science à travers la création du CNRS en 1939, et il y a plus ce côté peut-être un peu émulation des débuts, mais en même temps, on voit bien qu'il y a toujours cette nécessité d'avoir un lieu de passerelle entre différentes fractions, on va dire, progressistes dans le monde scientifique.
Alors, parmi les choses nouvelles, il y a la création d'une revue, il y a l'idée quand même de s'adresser au grand public de plus en plus, de prendre en charge une forme de vulgarisation scientifique, de participer de la création d'une culture scientifique commune.
Alors l'idée était assez forte dès le départ, parce qu'effectivement il y avait déjà cette idée d'avoir une émission de radio qui existe toujours d'ailleurs pour l'Union rationaliste, une émission régulière qui diffuse les textes de l'association. Mais il va y avoir il y avait les cahiers rationalistes qui existaient là aussi déjà, mais qui reliaient les conférences. Mais il va y avoir cette idée que petit à petit l'important c'est de gagner le grand public, et que donc il faut se fondre dans les médias de masse, dans les nouveaux médias qui vont arriver, ça va être le cas pour la télévision, etc., pour ne pas se laisser dépasser et continuer à toucher le grand public.
Alors c'est aussi ce constat et cet objectif que partage une autre structure, une autre organisation que vous avez étudiée. C'est les deux principales que vous avez étudiées pour retracer cette histoire des militants pour la science, qui ne prend pas vraiment le relais de l'Union rationaliste, puisque l'Union rationaliste existe toujours. Elle va connaître des moments difficiles, peut-être on reviendra sur la situation contemporaine, mais en tous les cas, naît dans les années 60, c'est ça, l'Agence française pour l'information scientifique, qui est une autre organisation portée par une personne, Michel Rouzet, qui d'ailleurs sera pendant très longtemps producteur sur cette antenne à France Culture, d'émissions scientifiques, mais aussi l'animateur infatigable de cette Agence française pour l'information scientifique.
Oui, alors c'est vrai que tout à l'heure on a mentionné le fait qu'il y avait des instituteurs, qu'il n'y avait pas que des savants professionnels dans ce type de mouvement. Et donc, parmi les adhérents d'Union Rationaliste, Michel Rouzet, lui, était un journaliste. Et donc, c'était un journaliste qui n'était pas uniquement un journaliste au départ, journaliste scientifique. C'est quelqu'un qui a une trajectoire assez particulière. Donc, c'est lui qui va fonder cette agence française pour l'information scientifique, mais qui, très vite, va changer de nom pour devenir l'Association française pour l'information scientifique. Donc, il crée cette agence en 1968. Et lui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a des parcours un peu similaires à ceux des savants des années 30, sauf qu'il n'est pas lui-même savant, mais on voit bien qu'il baignait dans cette espèce d'environnement très, finalement, très favorable à la science. C'était quelqu'un qui était un militant pivertiste, donc au sein de la SFIO, mais sur une ligne très gauche-révolutionnaire, très donc, hostile à l'impérialisme.
Du nom de Marceau Pivert.
Ouais. Pardon, oui. Et qui donc était plutôt connecté aussi à des réseaux libertaires. Sa femme, Georgette, était très connue des historiens de la guerre d'Espagne, parce qu'elle est partie se battre en Espagne avec la colonne d'Urruti. Donc en fait, il y a vraiment cette idée que ce sont des gens qui étaient des journalistes, mais aussi des journalistes engagés avec un vrai pied dans le monde, le mouvement social, et pour qui finalement défendre la science et être engagé politiquement, mais c'était un continuum, quoi. C'est-à-dire Michel Rouzet, par exemple, c'est un des premiers journalistes à avoir couvert les massacres de Guelma en 1945 en Algérie. C'est quelqu'un qui fait un rapport de 27 pages décrivant comment l'armée française utilise y compris des fours crématoires pour se débarrasser des corps, qui essaie de faire sortir ce rapport qui est censuré par la presse, puis après qui rentre en France, devient rédacteur en chef adjoint aux côtés d'Aragon de ce soir. Donc c'est quelqu'un qui véritablement était pleinement dans le monde militant, mais qui effectivement par une série d'ajustements progressifs va se recentrer sur les questions scientifiques. Alors il y a la question de la bombe atomique, hein, qui pour beaucoup de ces générations, militants de cette génération-là, joue comme un sas. Il est spécialiste petit à petit sur les questions de l'atome, sur les questions de l'univers scientifique, mais il y a aussi cet engagement très positiviste. Alors, c'est souvent des autodidactes qui se sont vraiment formés eux-mêmes sur les questions scientifiques. Et donc, quand Michel Rouzet devient véritablement un journaliste scientifique à part entière et qu'il crée cette agence, après, il va tenir des émissions, mais pendant des décennies. Il a animé les chemins de la connaissance, mais il anime aussi un bulletin à côté. Il écrit pour Science et Vie. Enfin, il a tout un environnement d'intervention journalistique autour des questions scientifiques et il va le tenir pendant des décennies.
Alors, avec pour principal objectif, et ça va être un axe important de ce mouvement rationaliste à ce moment-là, de s'en prendre à tous les charlatans, parce que c'est vrai qu'on voit naître, c'est pas nouveau, ça a toujours existé, mais on voit des médecines dites naturelles devenir de plus en plus populaires, et donc l'homéopathie, par exemple, va être un cheval de bataille. D'ailleurs, il revient, parce que j'ai parlé des manifestations pour la science, mais j'aurais pu parler de la pétition Fake Med aussi, qui a impliqué récemment un groupe de médecins, qui a remis sur l'agenda cette question récemment. En tous les cas, il y a l'astrologie qui est en ligne de mire, enfin toutes ces pratiques occultes qui sont combattues, parce que l'idée est vraiment de faire une éducation scientifique et de faire en sorte que le grand public se laisse pas abuser par un certain type de discours. Donc ça va occuper une grande partie du temps. Mais on n'a pas le temps de tout raconter, parce qu'il y a énormément de choses dans cette histoire, mais peut-être ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête, Sylvain Laurence, maintenant, c'est ce que vous montrez à propos de la façon dont ces associations, aussi bien l'Union Rationaliste que l'Association Française d'Information Scientifique, vont se trouver en quelque sorte mises à malmener par une évolution, la montée des mouvements de prise de conscience écologique et les tensions qui vont se faire jour entre cette prise de conscience et puis le progrès scientifique tel qu'on l'avait toujours imaginé. Et là, on va voir ces militants pour la science parfois avoir du mal à prendre en compte de nouvelles questions et défendre mordicus des utilisations industrielles de la science, des aspects de science appliquée en quelque sorte. Et tous ces ajustements vont prendre une vingtaine, une trentaine d'années. Et peut-être c'est de cette période-là qu'on est en train de sortir en ce moment, si on veut être optimiste, Sylvain Laurence.
Oui, alors voilà, donc ce que montre aussi l'ouvrage, c'est comment cette génération finalement de défenseurs de la science vont se retrouver un petit peu pris en porte-à-faux à partir du début des années 70 finalement par exemple la question du nucléaire, c'est-à-dire sur la question du nucléaire, d'un point de vue, on va dire, de leur ancrage militant partisan, ils sont plutôt proches de la galaxie communiste et donc du PCF qui est très forte sur les campus de sciences physiques en France, qui pousse et qui est très favorable le Parti communiste français au programme de construction des centrales nucléaires, qui est complètement lié au monde de la science physique, qui essaie de maintenir une légitimité notamment au regard des gouvernants et du monde politique. en montrant que elle peut avoir une utilité à travers l'atome et le nucléaire. Et donc forcément, de par leur positionnement, ces militants-là sont plutôt proches de ce pôle-là. Et en même temps, d'un point de vue, on va dire rationaliste et totalement rationnel, quelqu'un comme Evry Schatzman, hein, qui a été longtemps donc responsable
président
de l'Union, voilà, président de l'Union rationaliste, qui était un astrophysicien, lui, il peut percevoir finalement la question de l'atome, elle pose aussi par exemple la question des déchets nucléaires, ou que pareil sur la question des pesticides, on peut avoir des approches qui sont à la fois totalement, on va dire, positivistes, dans le sens où on pense toujours que par exemple les produits, la chimie peut aider à avoir des meilleures cultures, et en même temps se poser la question des conséquences à long terme sur l'environnement de l'usage de ces produits. Et donc là il y a une forme de perturbation finalement de cette routine un peu positiviste qui s'était créée.
Même sur la question du climat par exemple, où là aussi on voit quelques difficultés à prendre au sérieux, à prendre en compte les choses qui aujourd'hui nous semblent évidentes.
Voilà, et donc par exemple sur la question du climat, on va trouver, y compris dans les brochures de l'Association française pour l'information scientifique, il y a eu des prises de position, par exemple climato-sceptiques. Et donc ce sont des positionnements qui visent en général, enfin ce type de positionnement très rationaliste, la façon dont il s'est structuré en France fait que souvent quand un problème de bifurcation lourde se pose à nos sociétés, ben, par exemple la question de l'énergie, la question du climat, etc., on va plutôt avoir tendance, du côté de ces militants, à écarter d'un revers de main les critiques venant du mouvement social, en les ramenant à ce qui serait une forme de retour à la nature ou un tropisme écologiste, un biais écologique. Alors que sur la durée, si on regarde effectivement, sur un certain nombre de dossiers, ce mouvement-là avait raison. Et donc, une posture rationaliste est censée reconnaître ce type de bifurcation-là. Et donc là, on sent monter tout au long des années 70 cette forme de contradiction. On va trouver dans une même revue des articles contradictoire sur un même sujet. Alors c'est normal, la contradiction en science. Par contre, ce qui est plus gênant, c'est qu'il n'y a jamais de retour en arrière. C'est, en fait, il n'y a jamais un papier disant « Ah ben oui, en fait, on s'est trompé, on a défendu telle ou telle position. » Et on devrait reconnaître que, par exemple, sur la question du climat, ben, on n'aurait pas dû publier ce papier ou on n'aurait pas dû prendre position. Ça, ce serait une posture de type...
Oui, parce que la science est dynamique. Il faut voilà. Toujours maintenir cette dynamique de la controverse, mais être capable, effectivement, à un moment donné, de s'appuyer sur des choses qui sont peut-être un peu plus solidifiées.
Voilà, et l'autre point gênant, c'est que dans l'autre sens, quand on est dans ce type de posture-là, il y a des choses qui sont de l'ordre du consensus scientifique, et que donc on peut opposer effectivement à un citoyen ordinaire en disant « là, vous êtes à côté de la réalité ». Par contre, il y a des choses qui sont de l'ordre encore de la controverse scientifique. Et là-dessus, on devrait pouvoir être capable, quand on défend la science, de présenter la science en disant « la science ne vous dit pas blanc ou noir sur tous les sujets, il y a des zones sur lesquelles la science est encore en discussion ». Or, ce qu'on constate à l'inverse, c'est que parfois, dans ce type de mouvement-là, aujourd'hui, on va avoir une tendance à présenter comme étant de l'ordre du consensus scientifique des choses qui sont encore discutées et encore en train d'être discutées dans l'espace scientifique.
Et... Alors... La science ne dit pas blanc ou noir, elle dit parfois gris ou zone grise, et c'est notamment de zone grise qu'on va parler dans la deuxième partie de l'émission avec le biologiste Thomas Himes qui nous rejoindra, mais ce sera après un extrait du nouvel album de Lamb Chop, Flower.
La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau.
If I gave you $100 to record just three words, I could make the perfect song. Some go by choice, some go by disease. Give me back my Christian name. That cigarette isn't gonna smoke itself. Mr. Raindrops, like ruby falls.
Militer pour la science, c'est le titre du livre de Sylvain Laurence dont nous parlons aujourd'hui, une histoire des mouvements rationalistes en France 1930-2005. Et on en parle dans cette deuxième partie avec un scientifique biologiste, Thomas Himes. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence donc à AgroParisTech et vous publiez aux éditions du Seuil, non pas cette fois un roman, parce que ça vous est arrivé, mais un essai, Infravie. Un essai qui fait état de votre travail de scientifique et qui s'adresse à un public plus large que simplement vos collègues biologistes. C'est un livre qui est extrêmement bien écrit d'ailleurs et qui nous permet de comprendre des choses extraordinairement compliquées. Ces fameuses zones grises dont vous parliez, qui fait état d'un certain nombre de controverses à propos d'une question qui est une question absolument majeure de la science, tout simplement, qu'est-ce que la vie ? Évidemment, c'est la question pour un biologiste.
Oui, bah c'est un peu, ça a été un des deux points de départ de cette enquête, on pourrait dire. Le constat, une sorte de paradoxe un peu cruel au sein de ma discipline, qui est la biologie, on avait beaucoup de mal à parler de manière consensuelle de ce que c'était que notre principal objet, c'était le vivant. Et qu'il y a une forêt de positions à ce sujet qui vont de propositions très précises, mais qu'on peut toujours critiquer, dans lesquelles on trouve toujours un angle d'attaque, à des positions qui seraient d'assumer qu'on ne peut pas définir le vivant, qu'il est irrésistiblement flou et qu'il ne veut pas être saisi. Et d'une certaine manière, ça remonte à des débats très anciens. Si on pense même à un philosophe grec qui s'appelait Anaximandre, un des fondateurs de peut-être de la démarche scientifique à certains égards, on va dire, qui parlait de principe générateur de toute chose comme étant l'apéron et qui était l'indéfinissable d'une certaine manière. Donc ça remonte à très très loin. Et du coup, c'était une frustration pour moi parce que je pense que c'est un problème de pas pouvoir définir clairement les choses. Et en parallèle de ce constat, de cette frustration, je me suis intéressé depuis pas mal d'années en tant qu'observateur au champ de ce qu'on appelle la biologie de synthèse, qui est en fait, en gros, les biologistes qui essayent, pour simplifier, de fabriquer de la vie en laboratoire.
Artificiel.
Voilà, alors avec tout le débat sur qu'est-ce qui est artificiel, mais bon.
Avec des guillemets.
Voilà, d'essayer en tout cas de partir de pure chimie et de fabriquer de la vie, ou alors de transformer radicalement des formes de vie existantes. Et je me suis aperçu que il y avait beaucoup d'impensés dans leur manière de faire, et un flou aussi dans leurs objectifs et dans leurs procédures. Et donc, ça a été le point de départ de mon enquête, qui m'a amené finalement à découvrir et à retrouver des choses, mais à en découvrir certaines, qui sont que dans la nature et dans le monde vivant, il existe toute une série de structures, qu'elles soient fabriquées en laboratoire, mais qu'elles soient naturelles aussi, qui défient toute délimitation claire entre le vivant et le non-vivant. Il en existe un continuum, des structures avec énormément de gènes, des structures avec quelques gènes, des structures sans gènes, par exemple, pour prendre l'aspect génétique de la question, et qu'on peut pas, c'est complètement artificiel et arbitraire, en tout cas, on va dire, de vouloir tracer une limite et admettre, créer un club d'une certaine manière dans lequel seuls les vivants seraient et tout le reste ne serait pas vivant. Et donc, c'est en m'apercevant de l'existence de ce bestiaire un peu étrange, souvent de bactéries ou de proto-bactéries, que j'en suis venu à la conclusion que un des points d'achoppement qui faisait qu'on tournait toujours autour de cette question, c'était qu'on voulait définir le vivant comme un périmètre, comme une frontière, et que on avait virtuellement cette idée qu'avec beaucoup de temps, on pourrait, avec deux grands sacs, trier tous les objets de l'univers en le sac des objets vivants et le sac des objets non vivants. Et en fait, je propose dans ce livre une nouvelle perspective théorique, qui s'assoit
sur des recherches
et sur de la philosophie des sciences et de la philosophie de la biologie. Tout ça est assez documenté, qui propose que le vivant soit pas donc ce périmètre dans lequel on est ou on n'est pas, mais une sorte de mise en mouvement dynamique, une dynamique adaptative de la matière, et le terme adaptatif est très important parce que c'est pas n'importe quelle dynamique, c'est pas un mouvement brownien aléatoire de molécules, c'est une certaine forme de mise en mouvement de la matière et qui est adossée à la sélection naturelle darwinienne. Donc voilà. Donc c'est d'une certaine manière plaider pour une forme de créativité aveugle. En fait, le vivant, ce serait une forme de créativité aveugle, d'invention permanente, et ce serait surtout pas quelque chose qui serait défini par un ordre précis et rigide, mais une sorte de tension permanente entre l'ordre et le chaos.
Alors en lisant, en prenant connaissance du livre de Thomas Eames, je me suis dit, parce que je savais que je voulais faire une émission autour de votre livre sur Militer pour la science, que Thomas Eames, au fond, on serait dans les années 30, c'était une évidence, était un des fondateurs de l'Union rationaliste. C'est-à-dire que le type de démarche qu'il propose avec un livre comme celui-là, qui consiste à partager avec des non-spécialistes curieux tous les soucis, les problèmes théoriques qu'il ressent, et les solutions aussi qu'il propose, c'est typique de cette démarche, au fond, dont vous avez écrit l'histoire, Sylvain Laurence?
Alors oui, en plus, j'ai lu le livre et je dois dire que j'ai vraiment été impressionné par les capacités qu'il a à rendre évident et clair des choses qui pour moi étaient assez inconnues. C'est-à-dire que là, je suis ressorti de là, j'ai l'impression de pouvoir expliquer à peu près comment marche une cellule et qu'est-ce que c'est ces histoires de vie et d'infravivants. Et je pense, enfin vraiment, c'est un livre dont je recommande la lecture et je pense que c'est vraiment le genre typique, on va dire, d'initiative visant à promouvoir une espèce de stock, d'état des savoirs sur des questions-là, avec en plus différentes entrées, la biologie de synthèse, mais aussi où on en est des théories de l'évolution.
Qui faisait débat au début de l'Union rationaliste, parce que le darwinisme n'avait pas gagné la partie. Les néo-lamarckiens tenaient le haut du pavé.
Oui, alors en fait, une des premières conférences faites à l'Union rationaliste, c'est une conférence d'Étienne Rabaud qui, en gros, se bat contre, effectivement, les darwinistes. Mais alors ça, c'est aussi parce qu'il y a eu en France toujours, ça, ce que montre bien Laurent Loison dans son livre sur le néo-lamarckien, il y a toujours une tradition en France où on a toujours essayé de réhabiliter la dimension matérielle et d'avoir une approche plutôt matérialiste des questions liées à l'évolution, ce qui fait qu'y compris même encore dans les années... c'est ce qui fait que dans l'affaire Lysenko, il y a toute une partie des rationalistes qui basculent du côté de Lysenkisme parce qu'ils se disent « Ah, enfin, on va pouvoir prouver que la théorie des gènes, qui est toujours suspecte de pouvoir déboucher sur une forme de racisme fondée biologiquement, on va enfin pouvoir prouver que cette théorie est fausse, réhabiliter l'environnement, le matériel, et donc rebasculer sur une espèce de continuum théorique qui va de la matérialité des choses vers le matérialisme scientifique. » Donc là, il y a une espèce de tropisme un peu français. Et puis, dans les années 60, il y a Ernest Cahan, qui est donc une des figures de proue de l'Union rationaliste, qui publie même un livre qui s'appelle « La vie n'existe pas », alors là, qui est vraiment l'approche la plus matérialiste possible, c'est-à-dire, en fait, la notion de vie même, c'est une notion qui est quasiment vue par Cahan comme religieuse, qui est suspecte, hein, il y a une fluide vitale qui serait là, puis parfois disparaîtrait, donc lui, il a, à l'inverse, une approche très matérialiste, finalement, la vie n'existe pas, et la bonne nouvelle, c'est que si la vie n'existe pas, la mort non plus. Un retournement un peu particulier de la terminologie vitaliste, on va dire.
Et alors, c'est vrai que ce livre que vous avez porté à ma connaissance, c'est vraiment un objet très très intéressant parce que justement, enfin, ça illustre un propos que j'ai au cours de mon livre et qui finalement en creux parle des reconfigurations de la rationalité dont vous parlez finalement au cours des époques successives dans le vôtre, qui est de dire, c'est d'ailleurs la confusion entre le mécanisme et le machinisme, c'est-à-dire que on se dit que puisqu'il n'y a pas de souffle vital et qu'il faut évidemment évacuer ce genre d'hypothèse surnaturelle, la conclusion à laquelle on en arrive en creux, c'est de se dire il faut penser le vivant comme des petites machines de précision. Et les propos de Kahn vont vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire puisqu'il n'y a pas de souffle vital, tout ça n'est que de la mécanique. Mais la mécanique et le machinisme, c'est pas la même chose, parce qu'il y a évidemment tout est soumis aux lois de la mécanique dans l'univers, mais par contre fabriquer des machines, c'est une activité très particulière. Ce sont des entités qui fonctionnent de manière régulière, et c'est un moment crucial dans mon livre, c'est de montrer qu'il existe une autre forme de rationalisation du vivant qui passe par autre chose que de le comparer à une machine. Et ça a beaucoup de conséquences pour les biologistes, mais ça a aussi des conséquences épistémologiques et éthiques, parce que si on accepte cette idée-là, si on accepte que le vivant est en permanence une interaction dynamique avec son environnement, ça veut dire qu'on peut pas le saucissonner, ça veut dire qu'on peut pas, on n'a pas de légitimité à le breveter, par exemple, parce que ce sont des entités qui sont en permanence en train d'échanger du matériel les unes avec les autres, et dont les gènes qu'on pourrait mettre dans une bactérie modifiée ou qu'on créerait ex nihilo, elles iraient immanquablement dans d'autres entités assez rapidement, et puis elles évolueraient, et puis de toute façon, ces machines ne sont pas stables. Et donc l'idée, je pense que c'est en creux une manière d'illustrer ce que vous dites, et peut-être de parler de ces débats sur les évolutions de ce qu'est la perception de la rationalité, c'est de montrer que parce qu'on a sur les épaules le poids historique du vitalisme, par exemple, en biologie, on n'ose pas sortir du carcan du vivant-machine. Or, il y a plein de manières de proposer d'en sortir en étant extrêmement clair et sans ambiguïté sur le fait qu'évidemment, on ne prête pas de force surnaturelle à l'action dans le vivant.
Ce qui est important comme approche, je trouve, c'est intéressant dans la proposition qui est faite dans cet ouvrage, c'est que ça permet de refonder une forme de posture éthique, mais sur autre chose qui serait une forme de sacralisation justement vitaliste. Mmh. Donc là, il y a une forme de respect apporté au vivant et à l'infravivant, mais qui se justifie sur d'autres socles que ce qui serait des socles religieux. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre de Thomas Hinz, je trouve que c'est qu'on voit bien aussi que la barrière n'étant pas fixe entre vivant et non vivant, on peut peut avoir des transformations de choses qui sont, selon certains angles, considérées comme du non-vivant. Et puis, par exemple, on apprend que les virus peuvent tomber malades. C'est des choses qui montrent très bien et que j'ignorais complètement. Et que donc, à partir de là, l'idée de pouvoir établir, à partir d'un socle purement normatif, en amont, des lois et des règles fixes, ça reviendrait effectivement à remettre des barrières morales là où finalement il est compliqué d'isoler ou de construire un socle, un substrat normatif à ce type de régulation. Enfin,
Je le disais, vous faites un effort de vulgarisation, on peut le dire comme ça, mais de vulgarisation de haut niveau. Au fond, en vous entendant parler, je me disais, mais c'est difficile de savoir ce qui relève de la vulgarisation et ce qui relève de la conceptualisation théorique, parce que les analogies que vous utilisez, certaines pour les réfuter, d'autres pour les préférer, au fond, on peut les utiliser pour essayer d'expliquer à des non-spécialistes comment ça fonctionne, mais soi-même, on en a besoin comme chercheur, probablement aussi, pour progresser. Donc là aussi, il n'y a pas d'un côté la science et de l'autre la vulgarisation de la science, les choses sont beaucoup plus floues que ça.
Bah, je suis content de vous l'entendre dire, parce que je suis pas sûr d'avoir fait qu'un livre de vulgarisation. Enfin, j'espère effectivement aussi proposer à mes pairs et puis à la communauté même élargie des propositions un peu innovantes sur cette question qui sera pas tranchée à l'issue de ce modeste essai, c'est évident.
Mais vous l'avez fait dans la forme d'un essai qui paraît dans une maison d'édition générale, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose que la forme aujourd'hui canonique de l'article scientifique dans une revue.
C'est une décision que j'ai prise aussi parce qu'il me semble utile de parler à un public large et pas seulement pour le plaisir de toucher plein de gens, même si c'est un plaisir évident, mais c'est aussi parce que je pense que dans le domaine spécifique de la biologie, une des activités les plus dynamiques en ce moment, c'est la philosophie de la biologie. Elle apporte énormément, et pas seulement un supplément d'âme, et pas seulement un vernis, mais elle apporte vraiment des ouvertures utiles à sortir de certaines apories dans lesquelles une biologie très marquée par l'ingénierie s'enferme, et notamment dans le cadre de la biologie de synthèse dont j'ai déjà parlé. Cette vision vraiment entièrement pilotée par l'ingénierie est quelque chose qui me paraît faire naître des espoirs, pour le coup, très irrationnels, autour de, par exemple, le transhumanisme, le mélange des cerveaux avec des machines, qui semblent être très sérieux, très scientifiques, et qui, en fait, sont assis sur des métaphores extrêmement fragiles et très douteuses. Et je pense, justement, que c'est en s'ouvrant à la réflexion sur ce qu'est vivant, donc la philosophie de la biologie, qu'on peut même éventuellement fermer certaines portes et en ouvrir d'autres, évidemment.
Sylvain Laurence.
Oui, ce que je voulais rebondir en disant que si il n'y a pas la production dans l'univers savant d'une philosophie de la recherche qui est en cours, finalement le sens et la finalité de la recherche va être donné de l'extérieur, et que en ce moment le schéma qui triomphe, c'est celui de la valeur marchande. Et il suffit de voir le débat par exemple d'Emmanuel Macron avec les intellectuels, c'est-à-dire le seul moment où il prend des notes finalement, c'est quand il a en face de lui des gens qui lui expliquent comment faire revenir des chercheurs des États-Unis, comment on va créer des chaînes de valeur différentes autour des biotechnologies, etc. Et donc si il n'y a pas la production d'un sens et d'une réflexion en amont du travail scientifique qui est faite du point de vue des chercheurs eux-mêmes, c'est-à-dire une véritable épistémologie, alors, effectivement, il n'y a plus aucun tampon entre l'ingénierie et l'imposition extérieure de normativité politique, et notamment autour de la question marchande. Et là, je trouve que ce qui est vraiment fondamental, c'est que c'est un livre qui propose une forme d'autonomisation de la réflexion scientifique autour de la biologie, à partir de questions que se posent les chercheurs eux-mêmes.
Mais ce qui est encore plus formidable, c'est qu'un livre d'un biologiste soit lu par un sociologue, et réciproquement, puisque c'était tout l'enjeu aujourd'hui, et que la science soit une aussi, et qu'elle puisse, tout en étant plurielle, organiser ces dialogues et ces controverses. Militer pour la science, c'est le titre du livre de Sylvain Laurence qui paraît aux éditions de l'EHESS, et Infravie au pluriel, c'est celui du livre de Thomas Himes qui paraît aux éditions du Seuil. Vous trouvez les références bibliographiques sur la page de la suite dans les idées, sur le site de France Culture, une page où vous pouvez réécouter cette émission et vous abonner au podcast. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau, attaché de production Chouchan Djergaillan. Guillaume Ledu était à la technique aujourd'hui et Anne Pérez-Franchini à la réalisation. Et c'est Christine Bernard que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour une histoire particulière.